bienvenue à votre émission rétrospective de l'actualité économique sur Radio Capi. Cette semaine, l'actualité a été marquée par la journée des luttes contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre de l'année. À Kinshasa, plusieurs activités étaient organisées, notamment par la section du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption, ainsi que l'initiative anti-corruption pour le secteur privé. Nous parlerons aussi de la flambée des prix des denrées alimentaires observée depuis quelques temps à Kinshasa et partout ailleurs. Une hausse due au taux du dollar qui ne fait que grimper. Mais une bonne nouvelle pour la ville de Kinshasa, le gouverneur a annoncé la baisse de 18% sur 4 produits principaux très prisés par les Kinois pendant cette période des fêtes. Dans la deuxième partie de ce magazine, nous reviendrons sur le dossier Barça, ce projet de la Banque mondiale qui a bénéficié d'un financement additionnel de 75 millions de dollars américains. Pour le gouverneur du Nord, Oubangui, ce projet a contribué au développement socio-économique de sa région, avis que ne partage pas du tout une certaine tranche de la population, principale bénéficiaire du Barça dans le Nord Équateur.
Panorama économique, le dossier.
Bonjour à tous. Comme annoncé au sommaire, nous ouvrons ce magazine par la journée d'hier 9 décembre, une journée dédiée à la lutte contre la corruption. Le thème retenu par les Nations Unies pour cette année, Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. À Kinshasa, la section du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption a organisé une conférence au Palais du Peuple. Des participants, parmi lesquels les responsables des ONGD de lutte contre la corruption, sont revenus sur le nombre de filles à élevé pour éradiquer ces fléaux en RDC. Le député Oswald de Mukingi est membre de la section RDC du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption. Il explique les stratégies pour la réduction de ces fléaux en RDC. Il était joint au téléphone par Jean-Désiré Kanyama.
Ce jour est mémorable parce que nous continuons à sensibiliser le monde entier à travers le Parlement de la République démocratique du Congo qu'il faut éradiquer la corruption, promouvoir les bonnes pratiques de gestion pour conduire la République démocratique du Congo à l'émergence, à l'horizon 2030, tel que le stipule l'objectif 16 du programme du développement durable à l'horizon 2030, en insistant surtout sur la nécessité de réduire la corruption et la combattre. En conclusion, bannir les antivaleurs égale corruption zéro, égale 100% développement, surtout en cette période de dialogue inclusif que les dirigeants doivent mettre en pratique, car les lois existent, les discours de toutes les autorités ont été déjà faits, mais l'homme congolais reste toujours corrompu.
De son côté, l'initiative anti-corruption pour le secteur privé a aussi organisé un forum en collaboration avec Vodacom Congo et quelques membres de l'AFEC. Au menu de ces forums, les efforts fournis localement pour endiguer la corruption en RDC. Le condensé de ces forums avec Michel Kifindangoy.
La corruption touche tous les secteurs, publics comme privés. En RDC, ce fléau gangrène la vie sociale et toute l'économie. Ainsi, depuis son existence il y a 4 ans, l'initiative anti-corruption pour les secteurs privés en a fait son cheval de bataille. Mais que peut faire le secteur privé pour contribuer à la lutte contre la corruption? Réponse avec Chantal Kanyondo, présidente de l'initiative anti-corruption pour le secteur privé.
Cela nous amène à penser que le secteur privé a un véritable rôle à jouer. Mais à ses côtés, l'État doit jouer son rôle de régulateur au travers des institutions législatives et son rôle répressif au travers de ses appareils judiciaires. Si chacun joue son rôle, l'environnement économique deviendra plus sain. Finalement, nous retiendrons quelques actions qui favoriseraient la baisse de la corruption en RDC. Premièrement, la sensibilisation aux méfaits de la corruption dès les études primaires pour permettre d'inverser ces valeurs négatives. Deuxièmement, l'implémentation des valeurs éthiques dans toutes les petites, moyennes et grandes entreprises, du top management à l'employé le moins gradé. Troisièmement, des lois modernes et faciles à appliquer. Quatrièmement, favoriser les paiements bancaires. Et cinquièmement, enfin, un système de sanctions positives et négatives non défaillants.
Prenant la parole à ce forum, le professeur Mac Doumba, coordonnateur national de l'ITIE, a donné des cas de plusieurs millions de dollars issus du secteur privé qui s'échappent du trésor public à cause de la corruption.
Les recettes que nous proclamons, ce n'est pas ce que la République démocratique mérite. Aujourd'hui, nous sommes un pays de transparence. Nous sommes un pays dont l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a pris l'envol. Mais la question fondamentale est-ce que ce que nous déclarons comme recette de l'État est ce qu'il fallait déclarer? Et donc, comparé à plusieurs autres paramètres et critères, ces recettes de l'État sont de loin inférieures. En d'autres termes, l'argent disparaît et il faut chercher. Et si l'argent disparaît, en économie, il n'y a pas d'autre terme de le dire. Si ce n'est pas une perte, c'est une corruption. Donc c'est pourquoi nous disons que nous perdons énormément des milliards du secteur extractif, particulièrement dans le secteur minier et dans le secteur minier artisanal, à cause de la corruption, et que cela fait que nous n'avons pas suffisamment d'argent, et donc la corruption s'est installée comme un mot congolais.
Parmi les efforts mis en place pour enrayer ce fléau, les entreprises privées ont élaboré un code de conduite des affaires en RDC. Monsieur Nsimba, en charge de la conformité et éthique chez Vodacom, a partagé l'expérience de son entreprise en matière de lutte contre la corruption.
La lutte contre la corruption est au cœur de notre programme d'éthique. Et donc en interne, nous avons mis en place une série de dispositifs. On peut les résumer comme ceci. Faire ce qui est correct et dénoncer ce qui n'est pas éthique. Déjà comme Vodacom Congo, notre code commune prend l'engagement de pouvoir lutter contre la corruption. Ça c'est le premier principe. Et ce principe est accepté par les groupes, est accepté par la maison mère avant.
Notons que les ambassadeurs et les sénats ne croisent pas les bras. Ils contribuent chacun dans son secteur pour enrayer la corruption en RDC.
Autre actualité de cette semaine, la flambée des prix de produits des premières nécessités sur le marché. Cette hausse intervient à quelques jours des festivités de fin d'année. Face à cette situation, les membres de la FEC et le gouverneur de la ville de Kinshasa se sont réunis le mercredi dernier à Kinshasa. Les deux parties se sont convenues d'appliquer une baisse de 18% sur le prix des quatre principaux produits fortement demandés par la population pendant cette période de fête. Paul Montindo nous en dit plus.
Parmi les produits de première nécessité dont les prix ont beaucoup augmenté ces derniers temps, nous citons le riz dont le sac de 25 kg revient à 28 000 francs congolais, les sachets de sucre à 7 500 francs congolais au lieu de 6 000 francs congolais. Le bidon d'huile de 5 litres varie entre 11 000 et 12 000 francs congolais. Témoignage des vendeurs.
Les prix ont vraiment largement augmenté.
Vendeurs et acheteurs attribuent cette flambée des prix à la perte des valeurs du franc congolais face au dollar américain. Ces jours, les marchés parallèles affichent 1240 voire 1250 francs congolais pour le dollar à l'achat et 1280 voire 1300 à la vente auprès des cambistes. Les acheteurs rencontrés lancent un SOS à l'endroit des autorités et plaident pour des fêtes apaisées.
Bon, on a constaté les locaux et matières macas. De plus en plus difficile.
Mais l'on se souvient qu'au mois d'octobre dernier, le ministre de l'économie avait décidé d'accorder des allègements fiscaux aux importateurs pour s'assurer qu'ils ne manquent pas de nourriture dans les stocks et à des prix abordables. C'est ainsi que la FEC a réuni les importateurs et le gouverneur de ville pour activer cette décision. À l'issue de cette réunion, une baisse de 18% doit être appliquée dès ce jeudi sur quatre produits dont le riz, les chinchards, la viande, le poulet. On écoute André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa.
Tous se sont mis d'accord. Il y a une remise sensible des 18% du prix qui est d'application maintenant. C'est pourquoi je tiens d'abord à féliciter la FEC d'une manière générale et à féliciter les opérateurs économiques qui sont présents ici de la solution que nous venons de trouver. Donc, les quatre produits importants, que les quinoa, je parle au nom de Kino, excusez-moi, que les Congolais aussi aiment, le riz, les chinchards, la viande et les poulets, pour bien passer les fêtes. Ces mesures, madame, sont bien prises, les mesures d'encadrement seront là, et très strictes parce que eux, les grossistes, le demi-grossiste et les détaillants seront surveillés. Très surveillés parce que c'est la population qui doit bénéficier de ça. Je serai moi-même le premier surveillant parce que je vais communiquer le vrai prix. Je vais donner le vrai prix de demain qu'un carton de poulet de tel poids coûte autant, un sac de riz de 25 kg coûte autant, de 50 autant.
Pour sa part, Kimona Bounongue, administrateur délégué de la FEC, sollicite l'implication de la Banque centrale pour calmer la hausse du taux d'échange.
Lors de la réunion que nous avons eue dans cette même salle le 19 octobre de l'année, avait promis de faire un effort sur le contrôle, la suspension des tout contrôles économiques, douaniers et fiscaux, la suspension de la perception de la TVA tant à l'intérieur qu'à l'importation, et le gouvernement avait également donné des devises, alloué des devises à certains importateurs qui avaient des disponibilités en francs congolais. Il était de notre devoir de réunir les opérateurs économiques de telle manière qu'eux aussi fassent un effort pour aider la population. C'est ce qui a été fait tout à l'heure, c'est que nous insistons pour que la Banque centrale puisse également faire un effort pour que les taux de change du dollar sur le marché ne flambent pas. Parce qu'il est évident que si le taux de change du dollar flambe, s'il y a beaucoup plus de demandes de dollars en dollars parce qu'il y a moins de dollars, ça risque de compliquer un peu les données. Et nous avons insisté également sur ce point que le gouvernement fasse un effort pour que les devises soient mises au niveau des banques, de banques commerciales.
Certains allègements fiscaux promis aux importateurs par le ministre de l'Économie commencent à être déjà appliqués, a souligné André Kimbuta.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Passons à présent aux nouvelles en bref. À Mbujimayi, la mairie interdit la vente et l'usage des pétards sur toute l'étendue de la ville en cette période menant aux festivités de fin d'année. Le maire Jean-Paul Tambwa Kassandou a annoncé la descente imminente des services de son office dans les différents marchés et le commerce pour procéder à la confiscation des pétards. Il va également instruire les services aux frontières à veiller à ce qu'il n'y ait pas ces articles dans les marchandises qui franchissent pour entrer dans sa ville. Dans le cadre de responsabilité sociétale des entreprises, l'entreprise Vodacom a lancé le mardi dernier à Kinshasa une campagne dénommée Care and Share. Les agents de cette entreprise de télécommunications organisent une semaine de partage des vivres aux nécessiteux. Plusieurs sites étaient ciblés, notamment quelques orphelinats, hommes de vieillards et centres hospitaliers.
Le reportage de la semaine.
Cette deuxième partie revient sur le dossier PASA. 75 millions de dollars américains, c'est le financement additionnel que la Banque mondiale apporte dans le cadre du projet d'appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole en RDC, PASA en sigle. Un expert de cette institution financière internationale l'a annoncé le mardi dernier à Kinshasa à l'ouverture d'un atelier sur la stratégie d'entretien et de maintenance de routes des dessertes agricoles du Nord Ubangi, Sud Ubangi et de la Mongala, trois des provinces ciblées par le projet. Dans ce propos, l'expert de la Banque mondiale s'est félicité du bilan du projet PASA dans l'échéance de la phase initiale et le 31 janvier 2017. Un extrait du message de cet expert au micro d'Honoré Missenga Kalala.
La Banque mondiale se félicite que la plupart des objectifs ont été atteints et dans certains cas dépassés. Ainsi, le projet a atteint pour les trois provinces un cumul de 105 000 bénéficiaires directs contre 103 000 prévus au départ, dont plus de 40% de femmes. En matière de production de semences certifiées, l'intervention du projet a permis la production et la dissémination de 2800 tonnes de semences, ceci largement au-delà de la cible de 1500 tonnes prévue initialement. Les rendements des cultures cibles ont également doublé, et dans certains cas triplé, comme c'est le cas pour le manioc, qui est passé de 7 tonnes à l'hectare à près de 20 tonnes à l'hectare. Le volet élevage a permis la conduite de deux campagnes de vaccination et la protection du cheptel ovin, caprins et des volailles, et de diffuser des géniteurs améliorés à plus de 37 000 ménages d'éleveurs. Concernant les infrastructures, sur les 2500 km de routes de dessertes agricoles, 2122 ont été entièrement réhabilités, 4 marchés et 16 entrepôts de grande capacité ont été construits, en plus des nombreux entrepôts villageois et semenciers disséminés à travers la zone.
Cependant, dans le Nord Équateur, les bénéficiaires de ce projet se disent indignés par la prestation faite à Kinshasa par cet expert de la Banque mondiale. De 2500 km des dessertes agricoles ciblées par le projet, nombreux sont les tronçons qui ne sont pas opérationnels. Un reportage de Dominique Wolombi, Mongapangé.
Les parsas ciblent les provinces de la Mongala, du Nord et du Sud Ubangi. Dans ces provinces, les bénéficiaires sont unanimes. Le projet n'a pas encore atteint les objectifs qu'il s'est assigné dans les volets de réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Sur 2500 km de routes à réhabiliter, à peine quelques tronçons sont entretenus et sont praticables, indiquent la société civile et les organisations paysannes. Dans la Mongala, témoigne la société civile, les tronçons routiers de Bunduki dans les territoires de Bumba, secteur de Litimbiri, est réhabilité avec les ponts sur la rivière Lessé à la grande satisfaction des paysans. Ce qui n'est pas le cas pour les tronçons routiers d'Isalandobo, Yalusemba, Yandongi, Monongo, Yapombo et Ebonda, Yamaluka. Sur ces routes, là où il y a des travaux sur des ponts, la circulation n'est pas encore établie, ce qui pose un problème aux paysans pour l'évacuation de leur production vers les centres de commercialisation. La situation est la même dans le nord Ubangi et dans le sud Ubangi. La plupart des routes ciblées par les projets entrecoupés au niveau des ponts ne sont pas encore reliées au réseau. En croit Erol Bitanzoma, élu de Bujala, leur territoire est actuellement enclavé. Les travaux de réhabilitation des ponts sur les tronçons Mbanza Likimi, Likau Bangabola, Kolongo Bujala et Kichu Karagba, dit-il, sont loin d'être terminés. Soit 280 km avec 32 km de digues à réhabiliter. Une façon de dire pour les bénéficiaires du PASA, tant de la Mongala du Nord que du Sud Ubangi, que le bilan fait par l'expert de la Banque mondiale est loin d'être satisfaisant. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangi, Écho d'économie.
Avis que ne partage pas le gouverneur du Nord Ubangi. Selon Mme Marie-Thérèse Kerenzo, le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole a permis au Nord Ubangi de se relever sur le plan socio-économique et des infrastructures. Selon la même source, le Nord Ubangi a un important potentiel agricole et l'un des défis de la province dans ce domaine, c'est de relancer les cultures pérennes qui jadis généraient beaucoup de ressources financières et offraient beaucoup d'emplois dans cette région. Suivez plutôt la gouverneure du Nord Ubangi dans cet entretien accordé à Honoré Misenga Kalala.
Je dois le déclarer haut et fort que le projet PARSA, c'est le premier grand projet que le gouvernement central a orienté vers la province du Nord Ubangi. Et ce projet a permis à la province du Nord Ubangi de se relever sur le plan économique, social et infrastructure. C'est une œuvre humaine, il y a des points forts, il y a des points faibles, mais je crois qu'aujourd'hui l'opportunité nous est donnée au cours de cet atelier pour évaluer, recadrer les choses et partir dans le cadre de crédits additifs dont la durée va prendre 3 ans pour corriger et puis donner de bons résultats pour la période de prolongation.
Madame le gouverneur, est-ce que le Nord Ubangi a un potentiel agricole sur lequel il peut compter?
La province du Nord Ubangi a des potentialités réelles et palpables. D'abord la qualité des terres. Nous avons une mission des ingénieurs pédologues qui sont venus pour tester la qualité de la terre. En tout cas, ils nous ont confirmé que nous avions la terre la plus fertile.
La terre la plus fertile, donc on peut y cultiver presque toutes les cultures.
On peut y cultiver toutes les cultures. Et puis nous avons des microclimats, par exemple à Bosobolo. Tout peut pousser à Bosobolo. Des poireaux, des oignons, des pommes de terre, des haricots, du riz, etc.
Alors madame, en dehors des routes de dessert agricole, quels sont les autres défis à relever pour que votre province s'engage résolument sur la voie de son essor socio-économique?
En dehors de l'agriculture, c'est-à-dire la production de produits vivriers, nous avons le grand défi de relancer la culture pérenne. Vous savez, dans les temps, le Nord Ubangi était la province où la production du café donner beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois à la population. Et nous devons relancer cette culture pérenne. la production de café, de l'huile de palme, de cacao, etc. C'est ça les grands défis aujourd'hui. Nous devons passer des cultures vivrières vers la culture pérenne.
Mais il y a également le défi du désenclavement.
Oui, mais nous avons la route et le port de Businga qui joue déjà un rôle important puisque les bateaux arrivent jusqu'au port de Businga. Et aujourd'hui, grâce à la créativité de nos opérateurs économiques, pendant la saison d'étiage ou pendant la saison sèche, il y a de plus en plus de baleinières qui interviennent pour l'approvisionnement et même pour l'évacuation des produits agricoles. Et ici, grâce à cet atelier, nous avons réussi à poser les problèmes des voies de communication de la rivière Mongala pour que les partenaires regardent à quelle mesure ils peuvent travailler au balisage de la rivière Mongala, puisque pour nous cette rivière est capitale.
Madame, au mois de juin dernier, nous avons été en mission avec une équipe des agences des Nations Unies. Nous avons trouvé Badolité, une ville sans transport urbain, sans eau et sans courant, avec un barrage de Mombayimbongo qui était en panne depuis 4 mois. Un aéroport international presque à l'abandon. Quelle est la situation aujourd'hui?
D'abord, je dois corriger, monsieur le journaliste. La panne n'a duré que 3 mois et demi. La SNEL était intervenue et puis le courant, la régie des eaux a commencé à fonctionner. Mais pour le moment, malheureusement, le barrage est tombé encore en panne. Mais déjà, la SNEL a dépêché une équipe des ingénieurs de haut niveau qui sont en train de travailler. Je crois d'ici là, la lumière va revenir et Badolite va fêter les festivités de fin d'année dans la lumière.
Et l'aéroport international?
L'aéroport international, bon, nous sommes en train de présenter des plaidoyers auprès des ministres de transport, auprès des autorités du pays, mais je crois qu'ils ont pris bonne note du problème de l'aéroport de Badolite et à un moment venu, je crois que les vols réguliers vont commencer sur le port de Badolite.
Madame la gouverneure de Noubangui, merci beaucoup.
Merci infiniment, monsieur le journaliste.
Merci à André Mongo qui a assuré la mise en onde et merci à vous tous qui nous avez suivis. Retrouvez ce magazine sur www.radiocapi.net et n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos suggestions sur notre page Facebook. Bon week-end à tous.